Vous êtes bien sur CFM et c'est l'heure du rendez-vous politique de Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Quel est ton invité aujourd'hui ?
Aujourd'hui c'est Alain Hiche, le président de la Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne, qui nous fait l'honneur d'être ici dans les studios de CFM Radio. Bonjour Alain Hiche et bienvenue à vous sur CFM Radio.
Bonjour à vous.
Alors, avec vous, nous avons beaucoup de sujets, notamment l'eau. Vous avez accordé une interview à nos confrères de la Dépêche du Midi. On va y revenir. Le salon de l'agriculture qui vient de se terminer, on va en parler. Tout d'abord sur l'actualité du moment, si je puis dire, celle de la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes partie prenante dans cette réforme ? Est-ce que vous la voteriez si vous étiez parlementaire, Alain Hiche ?
Alors, c'est une question très pertinente, qu'il faut prendre quand même un peu de recul. Mmh. La réforme des retraites, je ne suis pas rentré dans le vif du sujet, parce que ce n'est pas un sujet qui...
Mais ça parle aux agriculteurs aussi, la retraite.
Bien sûr que ça parle aux agriculteurs, parce que les agriculteurs sont ceux qui ont les retraites certainement les plus faibles de France. Donc je pense qu'il est normal et logique que des gens qui ont cotisé autant d'années puissent prétendre à un minimum de retraite qui soit supérieur au SMIC ou égal au SMIC. Quoi.
Alain Hiche, le salon d'agriculture, donc, il a fermé ses portes dimanche. Un très bon cru, selon tous les observateurs, et notamment la patronne de la FNSEA, Christiane Lambert. On a assisté au désormais traditionnel défilé des personnalités politiques au salon. Un mot sur cette anecdote, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous inspire, ce traditionnel défilé des personnalités politiques ?
Mais on dirait que chaque année, les hommes politiques se rappellent qu'il reste des agriculteurs dans ce pays, et tous ont la volonté de se montrer auprès d'agriculteurs. Mmh. Alors pourquoi ? Parce que peut-être, certainement, ce sont ceux qui produisent tous les jours et qui proposent aux gens de la bonne nourriture dans leurs assiettes.
Mmh. Et cette image-là, finalement, de l'agriculture, j'allais dire gardien, sentinelle de la France, de nos paysages, de nos élevages, est-ce que cette image-là auprès des Français, elle s'estompe selon vous, ou est-ce que vous rencontrez, hormis bien sûr au salon de l'agriculture, vous rencontrez aussi toujours autant de ferveur auprès des citoyens ?
Alors, moi, je ressens qu'on est à un tournant. Oui. Et qu'on voit maintenant des citoyens qui prennent de plus en plus quand même l'agriculture et qui font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes.
Oui, c'est vrai.
Je pense qu'on a encore deux choses, hein, entre le discours et les actes, parce que quand je parle de l'acte, c'est l'acte d'achat, parce qu'aussi, on a un panier qui est compliqué. Voilà. Mais je sens que c'est en train de changer. Et les Français sont quand même aux côtés des agriculteurs.
Mais vous voulez parler, lorsqu'on parle des dirigeants politiques, de ceux qui nous gouvernent, des dirigeants des centrales d'achat, etc., est-ce que vous voulez qu'ils parlent d'agriculture plus souvent et pas seulement pendant le salon ? Est-ce que vous voulez qu'ils participent avec vous, à vos côtés, à la mobilisation autour de l'agriculture ?
Mais j'aimerais surtout qu'ils parlent de l'agriculture qui est plus vertueuse que ce qu'elle était à l'époque. De tous les efforts qu'ont fait les agriculteurs dans cette agriculture pour être quand même, pour la quatrième année consécutive, l'agriculture la plus durable au monde. Donc ça, je crois que c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on parle qu'une seule semaine par an, il ne faut pas qu'on fasse un focus pendant une semaine par an sur un salon qui est extraordinaire, mais c'est au quotidien et c'est tous les jours qu'il faudrait s'en rappeler.
Alors, pour rester encore un petit peu sur le salon, le Tarn-et-Garonne, qui a été récompensé au concours général agricole, récompensé à plusieurs titres. C'est un bon cru pour le Tarn-et-Garonne. Ces produits qui sont finalement visibles maintenant.
C'est un très bon cru. On a eu les vins, mais aussi on a eu de la transformation, je pense à la maison Raspide, et en élevage aussi, l'élevage Beaufils et Sazi, qui a remporté la palme quand même des concours en blom de d'Aquitaine.
La maison Miculot aussi.
La maison Miculot, enfin, ils sont nombreux. Oui. Et ça montre aussi quand même le travail au quotidien des personnes qui n'ont qu'une seule volonté, apporter des bons produits aux consommateurs.
Vous y étiez, hein, est-ce que vous avez pu rencontrer... Vous étiez au salon de l'agriculture.
J'étais deux jours, oui.
Ouais, oui. Vous étiez deux jours. Vous avez rencontré le président du conseil départemental. Je sais qu'il y a plusieurs parlementaires du Tarn-et-Garonne vous ont visité. Est-ce qu'ils sont fiers de ces produits, fiers de ce que vous faites chaque jour ?
Oui, alors, il y avait les parlementaires, il y avait aussi le président du conseil départemental. On a rencontré aussi la ministre des Territoires qui a déjeuné avec nous. Mais bien sûr qu'ils sont fiers, et ce que je vois aujourd'hui, c'est que le département aussi met en avant quand même les produits du département, Et je pense notamment à ce qu'on a mis en œuvre à la Chambre d'agriculture avec le 82 dans son assiette. Ce sont des agriculteurs qui produisent dans ce département et qui aujourd'hui peuvent proposer à la restauration collective de se servir directement chez le producteur.
Directement, c'est-à-dire via une plateforme ?
Via une plateforme qu'on a ouverte et qui est sur Montauban d'ailleurs, voilà, où c'est que les collectivités commandent sur cette plateforme les produits qu'ils souhaitent, ils sont livrés à la restauration dans leur cuisine et ils peuvent les donner, les servir.
Et ça marche ?
Et ça marche, elle a ouvert le 17 janvier, donc c'est tout récent.
Hein.
Mais on a de belles perspectives et on a beaucoup de collèges qui jouent le jeu. Beaucoup d'écoles aussi, de primaires qui jouent le jeu, et donc c'est très positif.
Alors c'est un libre-service ou il y a au préalable une convention à signer avec les établissements ou avec le Grand Montauban par exemple ?
Non, il n'y a pas de convention, c'est chaque établissement qui est libre. Bien sûr, il faut qu'ils rentrent en contact avec nous, on leur donne des codes d'accès pour qu'ils puissent avoir le panel de produits sur qu'ils peuvent se servir et utiliser, et voilà.
C'est une initiative intéressante, en tout cas.
C'est une initiative qui est partie de la création de la salle de découpe à Bexianis, où c'est qu'on a dit qu'il faut aller plus loin, il faut que nos enfants et les élèves de ce département puissent profiter quand même des bons produits du département.
En parlant de bons produits, un mot sur l'abattoir de Montauban. Est-ce que, où ça en est, ce serpent de mer, finalement, est-ce que des solutions ont été trouvées pour un avènement, finalement, de cette
Mais l'abattoir, structure. Il faut dire qu'il est indispensable, surtout à ce département et aux éleveurs du département, mais pas qu'aux éleveurs. Il est indispensable aussi pour les consommateurs. Sauf si les consommateurs veulent que demain, il n'y ait qu'une seule structure, qui aujourd'hui est bigarrée, pour ne pas la citer, et qui fera manger la viande qu'il voudra à toutes les personnes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un outil d'abattage sur ce département, où c'est qu'aujourd'hui, les abatteurs de ce département sont prêts à se regrouper pour venir abattre dans cet outil. Donc on a de belles perspectives. Je pense qu'on va arriver à sauver cet abattoir avec l'appui de tout le monde. Et quand je dis de tout le monde, c'est qu'on demande même aux collectivités de venir nous soutenir, aux communautés de communes, qui ont l'air plutôt partantes. Elles vont en délibérer dans leur conseil communautaire prochainement. Et à la suite de ça, on pourra finir, je pense, de... Oui. Cette structure-là. Quoi.
Alors, hier se tenait la session de la Chambre d'agriculture que vous avez présidée avec Madame la préfète qui est de Tarn-et-Garonne, qui vous a rendu visite et qui a fait un long discours. Est-ce qu'elle vous a rassuré, notamment sur ce point-là, sur la question de l'abattoir ?
Alors, elle nous a rassuré, oui. Ce que je dirais, c'est qu'elle a dit aussi pleinement que l'État était à nos côtés pour les investissements à venir sur cet outil. C'était important parce qu'ils avaient eu droit à un plan de relance de l'État. Sur lequel on connaît tous, où c'est qu'on a des dates limites, et le fait de changer de structure aussi juridique pouvait mettre un terme à cette aide de l'État. Elle nous a confirmé que, vu que c'était une continuité de l'outil d'abattage...
C'est-à-dire qu'il y aura une prorogation...
Il y aurait une prorogation pour maintenir cette aide qui est quand même de 300 000 euros.
Ouais, ce qui n'est pas négligeable. Alors, Alain, ces derniers mois, l'Europe a connu l'une des pires sécheresses de son histoire. Près de la moitié des surfaces agricoles de l'UE et 90 départements français se sont retrouvés en situation de sécheresse. À quoi s'est ajouté l'envolée des coûts avec la guerre en Ukraine Vous avez accordé, je le disais en introduction, une interview à la Dépêche du Midi, nos confrères de la Dépêche du Midi. Tout le monde doit faire des efforts sur l'eau et vous lancez sur plusieurs pistes. La situation est dramatique.
La situation est aujourd'hui dramatique. Peut-être ne le sera pas cet été, parce qu'on peut avoir un été comme 2021 où c'est qu'on a des précipitations toutes les semaines et où c'est que ça se passera bien.
Oui, mais c'est si.
Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que les retenues sont quasiment vides, on est à 20% de remplissage et qu'on n'a pas de réserve pour faire face à un été qui, s'il devait être sec.
Ouais, s'il devait être sec, mais là, il n'a pas plu, pratiquement pas. Nous sommes à la mi-mars, pas de pluie. Est-ce que les restrictions très sévères qui vont s'appliquer récemment, est-ce que vous les comprenez ?
Mais bien sûr qu'on les comprend. Enfin, je veux dire, un agriculteur a toujours travaillé en bonne intelligence et on a toujours su gérer les pénuries d'eau ou le manque d'eau en préfecture toutes les semaines lors de commissions pour ajuster justement des restrictions ou pas de restrictions ou lever des restrictions. C'est chose qu'on va faire parce qu'il y a une réunion qui est prévue le 20 mars en préfecture. Et là, on va commencer à discuter comment anticiper ces périodes sèches si on devait les gérer.
C'est pas trop tard, le 20 mars ?
Non, c'est pas trop tard parce qu'aujourd'hui, l'agriculture n'a pas besoin d'eau, je dirais. Par contre, je crois qu'il faut qu'on commence à discuter, comme on l'a fait sur l'électricité, hein. C'est une communication nationale. Il faut que tout le monde prenne conscience.
Vous disiez, pardon de vous couper, Alain, je vous disais que si nous avions, comme l'année dernière, je crois, si nous avions des gels tardifs, il faut de l'eau pour les gels tardifs. Là, quid de la situation ?
Ah ben, si on avait un gel aujourd'hui, alors ceux qui sont en rivière pourraient protéger leur culture par l'aspersion. Ceux qui sont avec des lacs collinaires, ceux-là, les lacs sont quasiment vides. Ils pourraient protéger peut-être une nuit ou deux, mais on ne pourrait pas protéger sur un gel qui a duré comme 7 jours l'année dernière.
Mais sur l'eau, si vous étiez au pouvoir, Alain Hiche, quelle solution vous proposeriez ? Parce que vous parlez d'interdire de limiter l'usage de l'eau pour remplir les piscines. Est-ce que ça ne fait pas finalement un peu gadget, voire démagogue de...
Non, mais il faut une conscience collective.
Ouais.
Et quand je dis ça, c'est que nos anciens, à l'époque, avaient tous une citerne d'eau dans leur maison, dans leur cave, pour arroser le potager, pour faire plein de choses comme ça. Aujourd'hui, quand vous lavez une salade, cette eau, vous pouvez la récupérer quand même pour arroser peut-être vos fleurs à l'extérieur ou des choses comme ça. C'est des petits gestes au quotidien qui représentent des millions de mètres cubes.
Ce, en quelque sorte, si on le rapproche à ce qui s'est passé au tout début de l'hiver, lorsque le gouvernement a lancé le plan de sobriété énergétique, où les Français, finalement, ont entendu cet appel et ont réduit significativement leur consommation d'électricité, c'est en quelque sorte ce que vous appelez de vos voeux.
Mais bien sûr, moi, c'est ce que j'appelle, c'est qu'il faut un effort collectif là-dessus. Moi, en tant que maire de Parisot, j'ai dit cette année, je ne ferai pas de village fleuri. On ne plantera pas des fleurs où c'est qu'on doit arroser l'été, parce qu'on est face à quand même une situation critique en termes d'eau.
Ouais, alors ça, c'est justement, cette initiative que vous avez lancée sur les parcs, ça peut aussi s'appliquer au golf, aux piscines. Est-ce que vous lancez un appel ici à vos collègues maires de Tarn-et-Garonne pour limiter finalement l'utilisation de l'eau pour arroser les plantes, les parcs et les golfs ?
Je pense qu'il faut avoir une intelligence collective. Il y a des choses qu'on peut se passer, il y a des choses qu'on ne peut pas se passer. Il y a aussi une activité économique qu'il faut comprendre, parce que toute activité économique a sa place quand même. Mais il va falloir, si on avait une année sèche comme 2022, il faudra qu'on prenne des décisions très dures. L'agriculture en prendra aussi, bien sûr.
D'accord.
Mais il faudra que tout le monde participe.
Est-ce que vous lancez un appel aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, je lance un appel, mais
parce que,
à toute
parce
la population,
parce
à tout
que,
le monde.
Dans votre interview, vous dites que tout le monde doit faire des efforts sur l'eau. Vous lancez un appel. Est-ce que vous avez envie, finalement, d'être la figure de proue de cette sobriété de l'eau dans le Tarn-et-Garonne ?
La figure de proue...
Je dis vous, c'est les agriculteurs.
Je ne sais pas, mais en tout cas, les agriculteurs en ont pleinement conscience. Les agriculteurs, certains d'ailleurs, ont changé leur production en implantant d'autres cultures à l'automne plutôt que,
moins
que des cultures de printemps.
Oui.
Ils sont en train de regarder, de faire des choix aussi, mais on est contraint, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de disponibilité de semences. C'est-à-dire que si en Tarn-et-Garonne, on voulait semer que du soja, qui consomme peut-être un peu moins d'eau, on n'a pas la disponibilité non plus de semences pour le faire.
Alors, Alain Hiche, la France a notamment perdu 2 millions de bovins en 10 ans. Est-ce que, d'un point de vue environnemental, on est dans le cours de l'histoire ?
Alors, sur l'élevage, il y a deux discours, hein, d'un point de vue environnemental. Moi, je dis, ce qui capte le plus de carbone, c'est la forêt. Les deuxièmes, ce sont les prairies. Ce sont les prairies... si elles sont entretenues. Aujourd'hui, l'entretien des prairies, il se fait par de l'élevage. Et il faut surtout dissocier l'élevage français avec l'élevage brésilien ou américain ou d'autres pays. Le nôtre élevage, il est vertueux, et ça, tout le monde c'est prouvé par les chiffres. Hein. En plus, parce qu'avec un chargement d'une vache ou une vache et demie à l'hectare, ce ne sont pas les mêmes choses que quand vous avez 5, 6, 7, 10 vaches à l'hectare.
Ouais. Donc, quand vous dites dissocier, ça veut dire... Faisons la part des choses. Attention, ne mettons pas tous les éleveurs de bovins dans le même sac.
Oui, faisons vraiment la part des choses entre l'élevage français, l'agriculture française et l'agriculture d'autres pays. Mmh. On ne peut pas comparer l'agriculture française avec l'agriculture d'autres pays. L'agriculture française et l'élevage français est vertueux.
Et vertueux. Et d'ailleurs, on parlait de Christiane Lambert, la présidente de la FDSEA. Elle a déclaré il y a quelques mois que l'agriculture avait encore des progrès à faire dans l'intégration des problématiques environnementales liées à la biodiversité, la qualité de l'air. Est-ce que vous partagez cet état d'esprit? Et est-ce que finalement, ce n'est pas un changement de philosophie des agriculteurs?
Mais bien sûr que l'agriculture aura toujours des efforts à faire, comme toute profession a des efforts à faire.
Oui, mais ça, on ne l'entendait pas. Il y a quelques années, on ne l'entendait pas de la bouche des agriculteurs. Est-ce que c'est un changement de paradigme que vous assumez ou pas?
Je l'assume complètement. Et la différence avec il y a quelques années, c'est que l'effort a été fait depuis 15 ans et on n'en a jamais parlé.
Hmm. C'est la différence que vous relevez.
C'est la différence que je relève. C'est que l'effort continue d'être fait dans le monde agricole, sauf qu'on en parle plus qu'il y a 15 ans.
Est-ce qu'il y a une négociation qui s'est terminée avec les distributeurs et les syndicats agricoles? Est-ce que c'est un bon accord? Alors, on parle de 10% d'augmentation. Est-ce que ces 10% vont vous permettre à vous, agriculteurs, de répercuter la hausse des charges que, malheureusement, vous subissez?
Mais il faut être très clair là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, si on part dans le secteur de l'élevage, on est en dessous le coût de production encore. Si on prend la filière fruits, et notamment la pomme aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui jettent la pomme. Mmh. Ça, c'est... La pomme est payée aux producteurs aujourd'hui 60 centimes le kilo.
Ouais, c'est incompréhensible. Quand on pense qu'on importe 60% de légumes, 45% de fruits et 29% de viande, comment c'est entendable?
Mais alors, pour nous, c'est très difficile.
Lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, de résilience, un mot qui vous est cher, résilience, est-ce que ce n'est pas des chiffres quand même qui heurtent la sensibilité des citoyens français?
Mais moi, ce qui me heurte le plus, c'est que si on prend l'arboriculture...
Parce qu'on sait les faire, tous ces fruits, tous ces légumes.
Mais
on sait les produire.
Aujourd'hui, on va les chercher parce qu'ils sont moins chers dans les autres pays. Aujourd'hui, on a une concurrence qui est déloyale, c'est surtout en termes de produits phytosanitaires. On importe des pays qui n'ont pas le même cahier des charges que ce que nous impose en France. Mmh. Il faut que le consommateur en prenne conscience et qu'il soit au courant de tout ça.
En Europe, oui. À part quelques pays, je crois 10 pays sur 27 possèdent des dérogations. Alors ça, c'est exceptionnel. Pourquoi vous acceptez ces dérogations qui sont accordées? Par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne qui produit la betterave pour faire du sucre que nous importons et qui possède dans le même temps une dérogation pour l'utilisation de néonicotinoïdes. Comprendre cette distorsion finalement?
Je crois qu'on a 14 pays en Europe qui a pris cette dérogation sur les néonicotinoïdes. Mais ça, c'est une véritable distorsion de concurrence. Ouais. Si les néonicotinoïdes sont dangereux pour la santé, il faut les interdire partout, en Europe, mais dans le monde entier. Ou en tout cas, ne pas importer des produits qui seraient néfastes pour les personnes. Alors, là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si un produit, il est nocif, on l'interdit. Mais on l'interdit partout. Et surtout, on ne fait pas manger à nos consommateurs.
Mais alors, comment on fait alors? Quelle autre solution vous avez? Quelle alternative?
C'est le pouvoir politique, parce qu'on parle des néonicotinoïdes, mais on peut parler du diméthoate dans la cerise. On a quasiment perdu tous nos producteurs de cerises en France, parce qu'on a un produit qui est interdit et qui venait pour pallier au problème de la mouche Drosophila subzuki. Oui. Ces produits-là sont autorisés en Espagne, sont autorisés en Turquie, et on a des importations qui augmente chaque année dans la cerise, à tel point que la production de cerises en France est en train de disparaître.
Et il n'y a pas de solution alors? Parce que Christiane Lambert, excusez-moi, je recite encore Christiane Lambert, elle souhaite que tout le monde se mette autour de la table et qu'il y ait un plan pluriannuel de solutions alternatives aux néonicotinoïdes.
Il y a des solutions. Mmh. Il y a des solutions, et les solutions, elles se trouvent avec la recherche. Donc il faut un pas de temps entre l'interdiction et la recherche, mais je pense qu'on peut le trouver. En tout cas, la France saura faire.
Je reviens sur Michel-Édouard Leclerc. Il dit que vous devez accepter, vous, les agriculteurs, que les consommateurs payent les hausses de prix négociées. Est-ce que vous en pensez quoi? Est-ce que vous acceptez ce postulat de Michel Edelrocker ?
Moi, ce que je dis, c'est que le consommateur, je pense, n'aurait pas besoin de subir toutes ces hausses si on respectait la répartition des marges. Voilà. Et que si on avait un coefficient multiplicateur sur les prix, nous n'en serions pas là.
Vous acceptez le fait que la France importe de la marchandise, notamment des fruits et des légumes? Mais est-ce que ça, c'est entendable pour vous?
Aujourd'hui, bien sûr que je l'accepte, parce que notre production française est inférieure à la demande, à la consommation. Donc, bien sûr qu'on est obligé de l'accepter, mais importons des produits qui, sanitairement, sont au même niveau sanitaire que les nôtres, que nous produisons.
Les échéances, pour vous, quelles sont-elles?
Mais les échéances... Il y a des échéances proches,
hein, oui.
C'est-à-dire comment on va maintenir des agriculteurs demain, comment on va renouveler aussi des générations d'agriculteurs, parce que pour installer des jeunes, on ne les installera pas avec une prime à l'installation, un revenu.
Oui, d'ici 10 ans, je crois, 60% des agriculteurs vont partir à la retraite. Parce qu'il y a des motifs d'espérer. Vous avez des jeunes agriculteurs qui s'installent, notamment des femmes. Est-ce que ça, c'est des motifs de satisfaction?
Mais bien sûr que c'est des motifs de satisfaction, il faut les encourager. Pour les encourager, il faut leur chercher un revenu. Et on a une chance en plus, je dirais, en Occitanie, c'est qu'on dit que l'augmentation de la population en Occitanie d'ici 20 ans va être de 800 000 à 1 million de personnes. C'est des consommateurs. Donc l'agriculture et l'agriculture locale pourra peut-être répondre et en tout cas trouver des revenus supplémentaires avec cette augmentation de population.
Alain Hich, malheureusement, nous sommes obligés de d'arrêter cette émission. Le temps imparti est consommé. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire un point juste avant l'été, ici, sur CFM Radio, sur ce qu'aura donné, finalement, tous les plans qui vont se mettre en œuvre, notamment le plan assurance récolte. Oui. Je crois, qui est sur la table, le plan agriculteur pour l'avenir de l'agriculture en France, un plan pluriannuel aussi. Oui. Vous êtes d'accord sur le principe?
Bien sûr, ça sera avec plaisir et il y a de vrais sujets importants et le projet de loi d'orientation agricole qui est en cours.
On va suivre les agriculteurs sur CFM Radio. Merci beaucoup.
Merci
Alain.
À vous.
C'était Politiquement Votre avec Kader Youb qui recevait aujourd'hui Alain Hich, président de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et maire de Parisot.